depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parole aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi. Après les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, encore la Chine, Paris cherche désormais à raffermir sa présence dans le secteur minier congolais. Le gouvernement met en avant des partenariats dits gagnant-gagnant, évoque la souveraineté économique et la valorisation locale des ressources. Mais cette vague de partenariats soulève aussi des inquiétudes sur une possible reconfiguration géopolitique autour des minerais stratégiques. Si certains y voient une occasion historique pour la RDC de mieux tirer profit de son sous-sol, d'autres craignent par contre le scénario déjà connu, celui d'une richesse exploitée sans bénéfice réel pour la population, voire un renforcement de la dépendance du pays aux puissances étrangères et dans le même temps du voix célèbre pour décrier que la RDC devient un nouveau terrain de compétition entre grandes puissances pour le contrôle des minerais stratégiques. De plus, dans un contexte où les minerais restent au cœur des conflits armés dans l'est du pays, ces accords sont aussi perçus comme tentative de mettre fin à tous ces conflits. Pensez-vous que ce partenariat peut booster l'économie congolaise et contribuer à ramener la paix dans l'est du pays ou au contraire enfoncer davantage le pays dans le cycle de dépendance? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Pour s'écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant 09 716 80 79.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Voilà, encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Et pour présenter ce magazine, je ne suis pas seul dans ce sujet, je suis avec Julie Fezabongoda. Bonjour Julie.
Bonjour Marcel, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, c'est encore un plaisir de vous retrouver hein, ce jeudi pour co-animer ce magazine. Et j'ai oublié de vous présenter, de parler de l'équipe de production qui est là, Patrick Yassongwa. Il y a également Paul Badianama qui est là pour l'équipe multimédia. Donc, grâce à Paul Badianama, vous pourrez suivre également sur les plateformes digitales de Radio Okapi ce magazine. Je vous ai parlé de YouTube, Facebook et X. Alors, je pense que bien notre invité est déjà en ligne, Julie Fézard.
Il n'est pas encore,
il n'est pas encore en ligne.
Nous allons commencer avec quelques
réactions. Vous avez déjà des réactions,
allez-y. Il y en a beaucoup. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont réagi. Je commence par l'ingénieur Pascal Kairi Gano de Goma. Il est ingénieur électricien, électronicien et logicien. Chaque grande puissance vient avec un partenariat gagnant-gagnant. Mais jusqu'ici, le seul gagnant évident, c'est l'étranger. Nous espérons que cette fois, les Congos gagnent un peu plus que des signatures et de promesses en conférence de presse. Steve Baoguere de Bukavu, le partenariat gagnant-gagnant signé par la RDC offre une réelle opportunité de renforcer sa souveraineté économique. Ils permettent le transfert de technologies et le développement des compétences locales. En favorisant la transformation sur place de ressources, ils ajoutent de la valeur à l'économie congolaise. Ces accords créent de l'emploi, dynamisent le PME et améliorent les infrastructures nationales. Ils diversifient le partenaire économique, réduisant ainsi la dépendance unilatérale. Grâce à une meilleure fiscalité issue de ces partenariats, les recettes publiques peuvent croître. Cela réduit aussi la dépendance aux aides extérieures. En imposant ces conditions dans les négociations, la RDC défend désormais mieux ses intérêts partenariats.
Voilà, on a beaucoup de réactions. Je lui fais honneur à l'occasion de lire. Hein. Peut-être on va lire encore deux, trois réactions, mais on fait signe que notre invité est déjà en ligne. Notre invité est déjà en ligne.
Ah, ok. Léonide Mopepele.
Bonjour, je suis ingénieur. Hein, donc,
Voilà, c'est ingénieur Léonide Moupépélé. C'est vrai, vous êtes ingénieur civil, métallurgiste, vous êtes ingénieur de mine, vous êtes aussi directeur général du cabinet dénommé Bicotim SRL, ancien ADG du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications des minérales précieux et semi-précieux CEC. Et vous êtes créateur de CECAM, mais qui est devenu aujourd'hui SAIMAP, c'est-à-dire le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Voilà, ça c'est votre présentation.
Exactement, vous connaissez mon parcours.
Voilà, et avec vous, on va parler en fait, de l'impact des contrats miniers dans l'économie et la sécurité de la RDC.
Monsieur Léonide Moupépélé, nous allons commencer directement sur la portée générale de ces accords. Comment comprenez-vous cette multiplication récente d'accords miniers entre la RDC et des puissances étrangères comme les États-Unis, la France ou les Émirats Arabes Unis? Est-ce un tournant stratégique pour notre pays?
Oui, il faut comprendre ça comme ça, que c'est un tournant stratégique. On a cessé de dire que en cette période qu'on qualifie de transition énergétique, la RDC est un pays solution. Non seulement parce que sur le plan énergétique, la RDC détient un potentiel très important en termes de ressources hydroélectriques, ce qui constitue une ressource en termes de ressources renouvelables, un potentiel très important, puisque nous avons 100 000 mégawatts de potentiel en termes d'hydroélectricité. Mais il y a aussi le fait que notre sous-sol contient la plupart de minéraux stratégiques qui interviennent dans les applications des technologies liées à la mise en œuvre de la transition énergétique. Je dois dire que pour la plupart de pays, ils ont des listes qu'ils ont établies. Par exemple, l'Union européenne a une liste d'une cinquantaine de métaux qu'ils ont reconnus comme stratégiques. Quand vous vous référez à cette liste, eh bien, notre pays détient autour de 25 minéraux stratégiques dans son sous-sol qui sont repris sur cette liste. Voilà pourquoi notre pays constitue aujourd'hui, quand on l'appelle pays solution, eh bien, c'est par rapport à ces deux aspects.
Bien, monsieur Léonide Moupépélé, c'est bien que nous soyons un pays solution. Je veux faire un rappel avant de poser ma deuxième question. L'ex-président Kabila avait négocié en 2008 un contrat sous forme de troc cobalt et cuivre contre la construction d'infrastructures avec un consortium chinois pour un montant de 9 milliards de dollars, renégocié à 6 milliards sous la pression de FMI. À ces jours, près de 2,74 milliards ont été décaissés par la partie chinoise, pour l'essentiel sous forme d'investissement. En mi-février 2023, l'inspection générale des finances, IGF, estimait dans une étude qu'il y avait dans cette convention de collaboration un important déséquilibre financier au détriment de la RDC. Dans ses conclusions, l'IGF avance un montant de 76 milliards de gains pour la partie chinoise contre 3 milliards d'infrastructures pour la RDC. Ma question est de savoir, le gouvernement parle de partenariat gagnant-gagnant. Sur quel indicateur objectif pouvons-nous juger qu'il s'agit effectivement d'un partenariat équitable du moment où nous avons vu avec ces grands contrats, ces déséquilibres que ça a généré?
Ok, il y a d'abord le principe. Le principe c'est quoi? Ce sont les conventions qui sont signées. Effectivement, vous parlez de ce contrat, le contrat chinois, parce que je me trouve être justement l'expert qui avait fait le bilan, l'audit de ce fameux contrat chinois. Je dois dire que sur le papier, ce qui a été signé en termes de convention, c'était du gagnant-gagnant. Vous avez la RDC qui avait établi une liste d'infrastructures qui comprenait notamment des chemins de fer. pense plus de 3000 kilomètres de chemin de fer qui devait être reconstruite, et même une partie, disons, dans ces 3000, il y avait au moins 1000 qui de chemin de fer nouveau. Alors, en dehors des chemins de fer, il y avait toute une série il y a des investissements qui devaient être consacrés pour la construction de routes. Quand vous regardez dans le fond, vous analysez cette liste de travaux qui devaient être faits, si ce qui était commis à l'application de cette convention avait été sérieux, aujourd'hui, la RDC n'aurait pas le problème d'infrastructure qu'il connaît aujourd'hui. On aurait ainsi les infrastructures lourdes qui nous auraient permis de pouvoir asseoir notre développement. Malheureusement, ce contrat a souffert dans son application d'une faible gouvernance. C'est-à-dire que les mandataires qui étaient commis à l'exécution de ce contrat ont pris des libertés avec les engagements du pays au travers de ce contrat, et le résultat, c'est ce que nous avons vécu. C'est-à-dire un déséquilibre entre ce qui était les engagements qui étaient pris au travers du contrat et les réalisations que nous avons vues, qui ont été effectivement mises en œuvre par les acteurs qui étaient commis à l'exécution de cette convention. Donc, ce qu'il faut reprocher le plus dans cette convention, c'est pas la convention en elle-même. Intrinsèquement, c'était quelque chose qui devrait profiter à la RDC. Mais c'est plutôt l'application, c'est-à-dire les mandataires, les Congolais qui étaient en charge de l'application de cette convention ont pris des libertés avec les engagements, et voilà, bon, finalement ce qui était attendu n'a pas été réalisé.
Bien, monsieur Mopepele, ce qui était attendu n'était pas réalisé. Est-ce que l'RDC a-t-elle aujourd'hui le moyen de contrôler ses partenariats, ou risquons-nous de répéter les erreurs du passé où le pays cédait sa richesse sans réelle maîtrise? Qu'en est-il de mécanismes de transparence, de traçabilité, des luttes contre la corruption dans l'exécution de ces contrats? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'aujourd'hui nous puissions dire que la RDC va réellement bénéficier de tous ces accords?
C'est ça qu'il faut craindre, madame, dans ce processus. Nous sommes dans un pays à faible gouvernance, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a la corruption, il y a la justice qui est mal distribuée, et tout cela fait que finalement, dans la gestion de tels contrats, c'est les engagements qui sont pris ne sont pas malheureusement appliqués ou mal appliqués. Et c'est ça tout le problème. Nous devons, dans le contexte actuel, si nous voulons être sérieux, nous devons commencer d'abord par faire l'examen de notre gouvernance pour rétablir un climat d'affaires qui donne confiance à ceux qui viennent pour investir dans notre pays. Il y a d'abord ça. Et puis ensuite, nous devons, on doit avoir une vision, un projet par rapport à ce que nous voulons faire. C'est bien de signer une convention, mais une convention, il y a des objectifs que vous devez suivre. Alors, il faut que ces objectifs puissent correspondre à un plan général de développement du pays. C'est parce que, justement, il n'y a pas un projet global qui sous-tend la vision de gouvernant, qui fait que lorsque vous signez ce genre de contrat, c'est un peu comme... un petit îlot dans cet océan Alors finalement, l'îlot est perdu dans cet océan-là. Et c'est ça qui se passe. Donc au départ, il faut avoir une vision globale qui sous-tend la marche du pays vers un mieux-être. C'est comme ça, quand vous allez signer ce genre de contrat, ça rentre dans cette vision globale. C'est ça, en fait.
Alors, quand
c'est
vous parlez,
ça, tout le problème.
Monsieur Léoni, quand vous parlez de vision globale, aujourd'hui, on parle du partenariat gagnant-gagnant. Vous estimez qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir par rapport à ce partenariat gagnant-gagnant?
Ah, bien sûr. La première chose, c'est il faut avoir... Il faut d'abord, en ce qui concerne, en tout cas, puisqu'il est question des minéraux stratégiques et de manière générale, parce que finalement, quand on parle des minéraux stratégiques, de quoi s'agit-il? Puisque la liste de ces minéraux stratégiques diffère d'un pays à l'autre. Mais quand vous regardez globalement, pratiquement tous les minéraux de notre sous-sol sont finalement stratégiques. Parce que même le fer, dont nous détenons plus de 20 milliards de tonnes de ressources, mais inexploitées à ce jour, malgré son potentiel important, la qualité très élevée de ce minéraux de fer, c'est aussi, pour certains pays, un minéraux stratégique, figurez-vous. Alors, donc, quand on prend les ressources minières du pays, tant qu'il n'y aura pas un plan minier, qui établit un projet global de développement de ces minéraux avec les objectifs de production associés à des projets d'infrastructure pour rendre les projets miniers viables. Tant qu'il n'y aura pas ça, eh bien, tout ce que nous pourrons signer comme contrat va souffrir de cette faible gouvernance parce qu'au départ, il n'y a pas une vision globale qui sous-tend la marche du pays.
Voilà, merci.
Je suis désolé, mais c'est ça, en fait, le vrai problème. Aujourd'hui, on va vous dire que nous avons un plan minier stratégique. Mais quand vous regardez ce plan minier stratégique, c'est un chapelet de bonnes intentions. Hein, on va vous dire que, bon, nous allons développer... telle industrie minérale, telle filière minérale, c'est tout ce qu'on on s'arrête à ça. Mais quant à dire quels sont les objectifs, quels sont les moyens à mettre en œuvre, les investissements, etc. Pour quelle fin, pour quelle finalité, avec quels moyens, tout ça, ça n'existe pas. Nous n'avons pas ça. Donc il nous faut au départ, un projet, et ce projet-là, ça s'appelle un plan minier tout court, pas un plan minier stratégique, mais un plan minier tout court.
Voilà.
Et ce qui est valable dans ce secteur de mines, il doit être aussi valable dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire tous les secteurs de la vie nationale, que ce soit les mines, l'agriculture, etc., doivent être sous-tendus par des plans, des vrais plans de développement et pas des stratégiques.
Voilà, monsieur Léonide, on va revenir à vous. Je lui fais envoyer ouvrir les standards. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Parlons aujourd'hui de l'impact du contrat minier dans l'économie et la sécurité de la RDC. Si vous voulez intervenir, composez 99-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Monsieur Sylvain Agernoff de Mahagui en ligne. Monsieur Sylvain, vous avez la parole.
Bien, Madame Julie, je voudrais saluer. Avant de donner ma contribution à la réflexion de ce jour, le problème qui ruine le pays, c'est le problème de l'éthique. L'invité parlait de la vision. Nous parlons des minéraux complets. Comment ça ne booste pas le développement du Congo et ça ne provoque pas la croissance économique. Le problème, c'est au niveau du mental congolais. Je lisais ce matin, écrit par un Belge, et j'ai confronté une ligne de ce qu'il disait, c'est que si le Congo n'avance pas, c'est plus que le mental congolais est plus lié à la cueillette. Madame Julie et mon frère, ma sœur au studio, et même les vidéos, et ceux qui m'écoutent, tout le monde sait que le Congo est très riche. Je vais aller par des exemples. Je suis en Ituri. Et vous savez que, puisque nous parlons des mines et la sécurité, vous savez que les groupes armés ici sont assis sur les mines. Mais on peut se poser des questions. Qui fournissent à ces groupes armés des matériels militaires? Et pour quel objectif? C'est pour attirer la prédation minière. Et c'est ce que l'invité évoque dans les concepts ou dans les questionnements. Quelle est notre vision globale par rapport aux mines que nous possédons au Congo? C'est un problème de l'éthique et de l'amour du pays et de la vision globale qu'on a de ces pays. Je l'ai dit toujours, d'ici là, nous aurons 100 ans, d'après 5 ans. Après les centenaires du Congo, qu'est-ce que nous aurons? J'ai comme l'impression que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ça fait quelques jours, nous discutons des différents accords de paix dans la partie orientale du pays. Ça fait l'objet de la préoccupation de beaucoup de Congolais. Mais si vous vous rendez compte, ceux qui ont pris les armes, ils prennent les armes puisqu'ils veulent s'approprier des mines. Et ceux qui dirigent aussi, dans la plupart des cas, on les accuse du fait qu'eux aussi sont en train d'exploiter, ils ont placé les leurs dans les mines. L'invité nous donne des propositions. Il faut un plan de gouvernance minière. C'est le plan de l'économie. J'ai travaillé avec un gouverneur de province, ici, l'honorable sénateur Jabamaïssa Saïdi. Pendant que nous étions en train de mettre en place l'exploitation locale, ça veut dire la transformation de l'or en Ituri, puisque c'est de ça que nous parlons, les mines et l'économie. Mais nous avons eu des députés dans une assemblée provinciale, apparemment des imantis, qui ont chassé le gouverneur. On nous amène l'état de siège. Je n'ai jamais vu un seul programme qui nous étale le plan de la transformation des noms minéraux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je voudrais m'arrêter ici, mais je vais dire seulement deux choses. Si nous voulons que nos mines relancent le développement du Congo, il faut que des personnes léonines quittent les transactions minières. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui trompent les gens avec des plans stratégiques ou opérations. Ils peuvent appeler ces plans comme ils veulent, mais en réalité, ce sont des plans privés pour eux-mêmes, pas pour les Congos. Ils élaborent des plans privés pour eux. Il faut que ces gens quittent d'abord les Congos. Deuxième chose qu'il faut faire, si nous voulons que nos mines relancent l'économie du Congo, il faut installer le deuxième secteur, la transformation de nos produits miniers sur les sols congolais, pour que nous puissions avancer. Aucun pays ne sera développé avec l'exportation du brut et l'importation des produits finis. Ça provoque la dépendance économique, la misère, et nous enrichissons d'autres économies.
Merci beaucoup. Merci. Voilà, il insiste sur la transformation de nos produits. Hein. Et notre auditeur également.
Et sur l'homme aussi, c'est l'homme qu'il faut, au fait, et un plan vraiment de développement. Ben, je comprends que l'état de siège, c'est plus pour arrêter la guerre. C'est peut-être pas en premier lieu les développements. Nous avons en ligne Christian Kasese de Kampala, en Ouganda. Christian, vous avez la parole.
Oui, bonjour madame Julie César. Mes salutations à notre cher frère Marcel Koubo, également à l'invité. Je voudrais en un mot dire que le peuple congolais doit avoir à l'esprit que les minéraux sont épuisables. Donc pour dire que toutes les études scientifiques ont démontré qu'au bout d'un moment, les minéraux sont épuisables. Et aujourd'hui, il faut dire que le seul espoir du peuple congolais pour le développement de son pays, c'est en fait le secteur minier, lequel malheureusement tarde à développer les pays et donc ça constitue une menace à l'avenir. Je voudrais, pour entrer dans le vif du sujet, dire également aussi que l'impact des accords miniers que la RDC signe dans les secteurs économiques et sécuritaires demeure faible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez une économie congolaise tournée vers l'extérieur. Pourtant, avec la production de minerais ici local, si elle était transformée, on pourrait arriver à une souveraineté économique. Mais également, la croissance économique en RDC depuis un certain moment est liée essentiellement au secteur minier. Et donc, normalement, nous étions en train de croire que le secteur minier pouvait, en fait, financer les autres secteurs. Ça veut dire le financement du sol par le sous-sol. Et là, jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que l'exploitation minière n'arrive pas à financer les autres domaines économiques. J'ai fait allusion ici au domaine agricole et même industriel. Au-delà de ça, il faut également dire aujourd'hui qu'à chaque fois que la RDC négocie les accords miniers, on observe à un certain égoïsme de la part des dirigeants congolais. Pourquoi? Parce que vous rappellerez que lors de la négociation du contrat sino-congolais, même lors de sa renégociation, il s'est observé une certaine vision tournée plus sur l'intérêt égoïste que l'intérêt général. Vous rappellerez que les négociants congolais s'étaient distribués des jetons représentant 31% des millions de dollars. Et donc cela constitue en fait... Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui a une compénétration avec celui de demain. Quel est l'impact ou même l'apport alors des scientifiques congolais dans les négociations aussi des contrats miniers? Aujourd'hui, il y a beaucoup de conclusions de mémoire de thèse. Mais aujourd'hui, quels sont les impacts? On peut aujourd'hui en faire bon usage et en tirer profit. S'agissant du secteur sécuritaire, aujourd'hui, vous savez que la RDC est un pays carrément failli. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à remplir ses missions régaliennes. Pourtant, le secteur minier aujourd'hui peut nous permettre de signer des contrats avec l'étranger ou l'extérieur à nous grandissant, c'est-à-dire fournir une formation à nos militaires, nous fournir un logistique militaire adéquat basé sur les technologies de pointe. Et là, jusque-là, chaque fois qu'on signe des contrats, lesquels n'ont aucune retombée positive sur le secteur sécurité de la RDC. Et donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent aujourd'hui que puisque ces minéraux sont épuisables, il faudrait déjà que ces minéraux puissent financer les autres secteurs de la vie congolaise. Hélas, comme on le sait, à chaque fois que le Congo traite avec les pays étrangers, les contrats là sont toujours léonnés, en ce que c'est toujours la partie congolaise qui en sort perdante. Cette fois-ci, je crois que nous ne pouvons plus nous permettre une énième erreur. Et donc, je crois que les fameux principes de la revanche du sol sur le sous-sol réexistent que là, oui.
Merci beaucoup. Christian Kassessé qui nous appelle en Ouganda. Christian, je dirais que nous ne pouvons pas non plus reprocher à notre gouvernement de brandir nos minéraux parce que c'est notre avantage comparatif. Hein. C'est important, c'est bien aussi que les retombées de minéraux puissent booster d'autres secteurs économiques. Nous avons Antoine qui nous appelle de Bounia. Vous avez la parole, Antoine.
Bonjour, c'est Antoine, hein. Je suis de Bougain, mais je suis présentement à Kisangani en visite familiale. Je ne sais pas si vous me suivez très bien.
Très bien, allez-y.
Oui, merci beaucoup. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec notre invité, et Sylvain de l'Itouri.
Mais je ne suis pas Sylvain, c'est pas l'invité, c'est un auditeur. L'invité, c'est Monsieur Moupépé.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je dis que je suis tout à fait d'accord aussi avec lui, mais avec mon prédécesseur, si je ne suis pas tout à fait d'accord, d'ailleurs, vous venez de le corriger. Écoutez, moi, non seulement j'ai un diplôme en droit, comme je suis avocat au barreau de l'Itouri, j'ai aussi un autre diplôme en relations internationales, à l'université de Goma. C'est-à-dire, les gens qui ont fait les relations internationales, ils comprennent facilement. Et ceux qui ont des notions sur ça. Vous voyez, Il y a un adage qui dit, je vais vous dire ça en swahili, en lingala, parce que j'ai évolué beaucoup à l'Est. Il y a un adage qui dit, kiamutu njo kinamusovaka. Kiamutu njo kinamusovaka. C'est-à-dire, en lingala, il y a motonde sovaka. Oh, il y a un de ko sauver, yo, maman Jili. Mutu kana yo, ko sauver, au côté crise, au sali taxi, au zimbongo, au sali bafer. Et ce que nous avons nos minéraux. C'est ce qui va nous sauver. Moi, je ne comprends pas. Le peuple n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que nous allons faire avec nos minéraux? Nous n'avons pas de l'expérience. Hein? Nous aurons toujours besoin de ces grands pays. C'est ce que je dis toujours aux gens. Nous aurons toujours besoin de ces grands pays occidentaux parce qu'ils sont déjà avancés en technologie. On peut, bon, exploiter ces minéraux, mais on va faire quoi avec ces minéraux? Nous allons les garder à la maison? Non. Nous devons coopérer avec ces minéraux, transformer ces minéraux pour le développement. C'est ça ce qu'on appelle la coopération internationale. Et dans la coopération internationale, je vous dis, Madame Julie, il y a toujours quelqu'un qui gagne un peu plus, qu'on ne vous trompe pas. Bien sûr, il y a des gains, nous avons profité de la sécurité et la paix, disons, la paix totale que nous cherchons. Et c'est ce que le président a compris. Et il a commencé à faire des tours, les gens disaient qu'il faisait des tours, mais ils ne savaient pas ce que le président faisait de faire. Et il allait toquer par-ci, par-là pour demander à ces grands pays, à ces occidentaux, à ces grandes puissances de cesser d'aller vers le Rwanda, le Uganda, qui entrent au pays, tuent les Congolais, violent les Congolais pour nos minéraux et ils n'investissent rien, ils ne laissent même pas des industries. Avec l'administration Joe Biden, c'était comme ça. Mais lorsque l'administration Trump est entrée, Trump a compris. Le président lui a dit, vous nous avez abandonné depuis que vous avez laissé les Zaïre de Mobutu. Vous nous avez abandonné, voilà, maintenant aujourd'hui la Chine est côte à côte avec vous. Et Trump a compris directement, comme c'est un autre d'affaires, il comprend directement et nous entrons dans l'affaire. Je ne comprends pas pourquoi les Congolais s'agitent pour ça. Il y a Motonde sur Vakaye, c'est comme ça. Donc nous félicitons le président de la République, ça va nous donner la paix totale en République démocratique du Congo. Nous allons revenir comme nous étions autrefois avec les Zaïre de Mobutu. Et c'est ce que Mobutu avait fait. Voilà pourquoi Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir. Vous voyez, nous serons quand même... À l'époque de Mobutu, l'argent circulait. J'ai écrit ça dans le groupe. L'argent circulait à l'époque. Qui peut me dire le contraire? Les gens étaient à l'aise. Nous avions la liberté. Hein, je ne sais pas si vous me suivez. Hein, ouais. Alors, moi, je ne comprends pas. Moi, je veux dire à ces gens-là, hein, après ces négociations de Doha et de Washington, les Congolais qui demandent qu'il y ait encore autre dialogue, dialogue pour faire quoi? Le président a son mandat. Il a la
merci beaucoup.
Il est dans sa législature.
Voilà, merci. Hein,
il a sa législature.
Merci. Ouais, merci. On a compris, hein, Antoine. Merci d'avoir appelé. Vous avez dit vous êtes à Kisangani, pas à Bounia. Merci d'avoir appelé. On va laisser toi seul, Lubumbashi, pour écouter. Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel. Bonjour à Maman Julie et à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour Maître.
Je pense que cette émission, c'est la suite logique de tout ce que nous avons dit comme thématique hier et avant-hier. Je suis tenté de dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant et ça va nous profiter dans le transfert des compétences technologiques, industrielles ou des transformations également. Des partenariats gagnant-gagnant également, comme on l'a dit théoriquement, peuvent également nous aider à créer la création des emplois également pour atteindre tant soit peu les 6 millions imaginaires que l'État avait placé, même si aujourd'hui nous n'avons pas les nombres exacts. Ça va également créer des infrastructures au niveau local, au transfrontalier, aussi interprovincial également, parce que ces minéraux peuvent être acheminés ou seront acheminés. Également, du point de vue hydrologique ou hydraulique, ça va également créer quand même une capacité des îles. J'allais dire des chutes seront créées pour supporter ces capacités industrielles du point de vue énergétique également. Mais cela ne pourrait être vrai, réel, si réellement le chef de l'État et le gouvernement, le régime en place, voient réellement négocier gagnant-gagnant.
Oui.
Rappelez-vous, les autres contrats qui ont été déjà on a parlé des gagnants-gagnants. En théorie, c'est facile. Mais en pratique, il faut également avoir des négociateurs qui, les intérêts du peuple, les intérêts de la nation, primeront au-delà des intérêts privés. voulait qu'il puisse négocier pour les poches privées également. Je pense que ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, Marcel, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous évoluer. Nous, nous sommes les pays du tiers-monde qui tentons de nous développer ou qui sommes en cours de développement également. Nous, nous avons toujours présence de l'Occident, des pays, de l'Europe et tout ce qui se passe avec. Mais il faut se substituer ou décider carrément. Nous pouvons signer ces contrats comme ça, gagner-gagner ces contrats partenariats et gagner-gagner, mais à condition au moins qu'au niveau local, il y ait la transformation. C'est là où beaucoup de contrats pêchent. Un autre aspect, Marcel, que nous pouvons également essayer de rappeler au gouvernement, c'est la responsabilité sociétale, la RSE. C'est une notion nouvelle. Au jour d'aujourd'hui, Marcel, venez dans les Hauts-Katanga. Allez-y à Bouma, par exemple. Moi, je suis aussi, je suis du Katanga. Vous voyez également que la responsabilité sociétale, la RSE, n'est pas respectée. Où les cahiers des charges ne sont pas respectés du point de vue développement communautaire. Et ça, ça va créer une méfiance entre les gouvernements ou les gouvernants et les gouvernés d'autre part. Même si cet argent pourrait contribuer à des impôts, fiscalité, qui peut avec. Mais dès lors que, du point de vue redevance minière, les cahiers des charges signés par les entreprises ne sont pas respectés ou ne seront pas respectés, je pense que ça va créer une certaine méfiance entre une par le gouvernement, mais d'autres également par les investisseurs. C'est ce que vous voyez, il y a des conflits, patati, patata, patata. Et pour s'en convaincre, Marcel, on a publié une liste, je ne sais pas, c'est l'IGF ou le semi de l'IGF ou de la primature, je ne sais pas, qui a publié autant de sociétés, même les sociétés que je ne vais pas citer ici, ont des dettes. C'est au moment d'interpeller les Congolais, le gouvernement congolais, non seulement d'exiger une transformation au moins, même à 70% de tous les minerais qui seront exploités, mais aussi permettre à ce que les cahiers des charges, la responsabilité sociétale de ces entreprises soient respectés comme il se doit au regard du code minier et d'autres tests réglementaires également. Et que ces sociétés puissent également s'acquitter de leurs obligations des impôts, de leurs obligations fiscales et tout ce qui va avec les taxes, pour permettre que l'État congolais puisse avancer. Et au gouvernement, nous allons également exiger une bonne gouvernance de ces redevances ou de ses impôts, et non des détournements, nous allons favoriser une méfiance qui ne va pas profiter à ses investisseurs.
Donc, voilà, merci beaucoup.
Des impôts. D'autre part également, les Congolais puissent être pas bénéficiaires dans le cadre des cahiers des charges et la responsabilité sociétale, ça permettrait également la sous-traitance d'évoluer. Voilà un peu intrinsèquement ce que nous pouvons dire.
Voilà, merci beaucoup Maître Patrick Odia. Vous avez insisté sur la transformation de produits, comme l'avait également dit, je pense, Sylvain, mais aussi sur le respect du code minier. Julie, faisons-va revenir à notre invité pour lui permettre de réagir par rapport à toutes ces réactions. Monsieur Leonide Moupepele, vous avez suivi les uns les autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ok, je salue Sylvain Anitouri, je salue Christian à Kampala, Antoine à Kisangani, mais il est de Bounia, et aussi Patty Odia à Lumbashi.
Patrick Odia, oui.
Ce que je peux dire en résumé quand j'écoute, on parle de contrats, de partenariats, tout ça c'est bien. On peut signer autant de contrats qu'on veut, engager autant de partenariats qu'on veut. Mais lorsque ces contrats et ces partenariats ne sont pas assis, ne s'appuient pas sur un socle, eh bien, ça va rester des contrats et de partenariats qui risquent de souffrir de la non-exécution ou bien de ne pas avoir l'impact recherché dans le développement de notre pays. Il faut au départ cette vision globale de ce que nous voulons faire de nos ressources. Et tous ces partenariats, tous ces contrats viendront s'asseoir, ça s'appuiera sur ce socle-là. Sylvain parlait de l'économie minière de la cueillette. Effectivement. Je donne un exemple. À l'est du pays, il y a ce fameux minéral qu'on appelle la monazite, qui est un minéral de terres rares, parce qu'on parle beaucoup de terres rares. Nous avons effectivement un minéral qui contient les 17 terres rares que on retrouve sur le tableau des éléments en toute dernière ligne. Il y en a 17. Et nous avons un minéral qui s'appelle la monazite qui contient ces 17 minéraux. Malheureusement, aujourd'hui, cette monazite qui est en fait un minéral associé de la cassitérite, c'est-à-dire lorsque vous exploitez la cassitérite, vous avez comme élément associé dans certains gisements la monazite, et elle est en train d'être exportée aujourd'hui par certains hommes d'affaires comme élément d'exploitation artisanale. Alors que c'est une ressource qui peut apporter les développements dans ces régions, notamment à l'est du pays. Tout simplement parce qu'au départ, il n'y a pas une vision de nous Congolais par rapport à l'exploitation et au développement de cette ressource-là. Alors c'est ainsi que les autres viennent pour cueillir, parce que au départ nous-mêmes nous n'avons pas de vision. Je suis une vidéo là qui passe en boucle dans les réseaux sociaux où on parle de ressources énormes de cuivre qu'il y aurait dans le Congo central. Voilà, et j'ai même vu que des investisseurs qu'on avait conduits dans le Congo central, soi-disant pour aller développer ces ressources. On parle même des ressources de manganèse qu'il y aurait dans le Congo central, avec des Japonais qui seraient intéressés au développement de ces ressources. Tout ça, c'est parce que au départ, nous n'avons pas une vision. Ce sont des partenaires qui viennent peut-être avec des investissements, mais malheureusement qui sont mal guidés, mal orientés sur des ressources qui n'existent pas, parce que c'est le cuivre du Congo central. C'est vrai, il y a du cuivre dans le Congo central, mais il n'y a pas de gisement exploitable industriellement. Toutes les recherches qui ont été faites à ce jour, aucune n'a abouti à confirmer l'existence d'un gisement de cuivre d'exploitation industrielle dans le Congo central. Mais vous avez comme ça, et je peux donner des tas d'exemples, même en ce qui concerne le manganèse, c'est la même chose. Donc au départ, nous pouvons signer des contrats, tout comme les contrats actuels qui sont discutés avec les Américains, les Français, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais au départ, nous-mêmes, nous devons avoir notre propre vision de développement de nos ressources. Qu'est-ce que nous voulons faire? Comment nous voulons comment cette exploitation se fasse? Dans quelles conditions? Avec quels objectifs de production, etc.
Bien, je vais terminer.
Ok. S'il vous plaît, allez-y. Je vais terminer juste pour dire ceci. À l'époque de la Gécamine, nous produisions autour de 500 000 tonnes de cuivre. Quand on arrivait à 500 000 tonnes de cuivre, on se frottait les mains. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions de tonnes. Mais avec 500 000 tonnes de cuivre, nous avions un réseau de chemins de fer qui fonctionnait correctement, une dorsale fluviale qui fonctionnait avec des ports qui étaient bien entretenus. Pour quelles raisons? Parce que cette économie minière bénéficiait du transport par voie nationale. Mais aujourd'hui, nous faisons jusqu'à plus de 3 millions de tonnes de cuivre.
Monsieur Léonide, nous avons encore deux autres auditeurs qui veulent intervenir. Et j'ai une question aussi avant de passer la parole aux deux auditeurs. Tout ce monde que vous venez de citer, les Japonais en dehors de Français, des Américains et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'observer une forme de guerre d'influence entre les grandes puissances pour le contrôle du sous-sol congolais? Et une deuxième question, les minéraux étant au cœur du financement des groupes armés à l'Est, pensez-vous que ces accords peuvent contribuer à pacifier la région de l'Est?
Ok, d'abord, en ce qui concerne les guerres d'influence, effectivement, c'est un fait. Les pays occidentaux ont constaté qu'en ce qui concerne les, les minéraux stratégiques, ils ont pris beaucoup de retard, surtout ici dans notre pays. Vous savez que les mines dans le Katanga, en ce qui concerne les mines du cuivre et du cobalt, c'est en grande partie contrôlé par les intérêts chinois. Et aujourd'hui, on est en train de parler du lithium. Là aussi, la Chine a pris de l'avance. Parce que si vous regardez par rapport à tous les projets qui sont mis en place, notamment dans le Tanganyika, sur le lithium, eh bien, déjà l'année prochaine, vous allez voir que les Chinois ont pris une longueur d'avance qui sera difficile à rattraper par les autres. C'est vrai. Parce que pendant tout un temps, les puissances occidentales ont considéré que le Congo étant un pays à problème, ils ont préféré laisser sous-traiter l'exploitation minière par des Chinois. Et aujourd'hui, se rendre compte que finalement les Chinois ont occupé tout l'espace et ils veulent revenir, les Chinois ont pris une longueur d'avance qui sera difficile à rattraper par les autres.
Voilà, Monsieur Leonid.
Les ressources de l'Est du pays qui risquent d'alimenter la guerre. Le tout, ça dépend de ce que, justement, nous apportons sur la table. Si aujourd'hui nous avons une vision claire du développement de ces ressources comme c'était plus ou moins à l'époque, vous aviez deux grandes sociétés minières, Sokimo et Somenki, à l'Est du pays, qui donnait du travail aux gens, qui arrivait à assurer la maintenance des infrastructures. Il y avait des chemins de fer qui étaient entretenus, etc. Les routes étaient en bon état. Vous n'aurez pas de guerre. La guerre, c'est justement le fait que les gens manquent des revenus et qu'ils doivent se débrouiller, et tout cela en l'absence d'un état qui prend en charge un peu l'organisation de toutes ces richesses, qui fait que finalement on arrive à des petits groupes armés qui gèrent de façon plus ou moins autonome toutes ces ressources.
Monsieur Leonid, vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais permettez qu'on prenne le tout dernier auditeur, Éminent Mwanda, pour une minute, et puis vous allez conclure. Éminent Mwanda, vous nous appelez depuis Bouka, vous avez deux minutes pour permettre à notre invité de conclure. Allez-y, Éminent Mwanda, depuis Bouka.
Oui, bonjour à tout le monde au studio, bonjour à l'autre collègue de la radio Capé. Moi, je voulais intervenir à la question disant que les contrats doivent être pour les de la population. Parce que le grand problème des autorités congolaises...
Oh, désolé, Éminent Mwanda, la qualité n'est pas très très bonne, on ne peut pas continuer dans ces conditions, ça sera pour une prochaine occasion. Julie Faisal, je pense qu'on va donner l'occasion à notre invité de reprendre la parole et certainement de conclure. Ah, Monsieur Leonid, on vous retourne la parole, allez-y, ça sera votre conclusion.
Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que le contrat qui est en discussion, le deal actuel avec les Américains, il y a d'autres pays européens qui sont intéressés, notamment la France et d'autres encore. C'est une bonne affaire, bien que ce soit signé dans le contexte actuel de guerre, il n'en reste pas moins que c'est à nous à mettre sur la table ce que nous recherchons à travers l'exploitation de nos ressources. Nous devons, j'insiste, avoir un plan minier qui non seulement donne les objectifs de production, mais donne également les dépendances qui doivent aller avec ce projet de production en termes d'infrastructures, c'est-à-dire de voies de communication et en termes de sources d'approvisionnement en énergie électrique. Tout ça doit faire un ensemble. tout à l'heure, il y a un invité qui parlait.
Un intervenant, pardon.
Oui. Qui, effectivement. Et qui parlait du développement que doit induire les ressources minérales. Effectivement, quand vous regardez la ville de Johannesburg, cette ville-là, au départ, ce n'était qu'une mine. C'est la mine de Witwatersrand, qui a donné d'ailleurs le nom à l'université de Wurtz, hein, qu'on appelle Witwatersrand. Aujourd'hui, cette mine est fermée. C'était une mine d'or. Mais c'est cette mine d'or qui est à la base de la création de la ville de Johannesburg. C'est-à-dire que la mine a attiré des hommes d'affaires qui sont venus, qui ont investi dans la production de réactifs chimiques, dans la production des explosifs, etc. Tout ça a amené des banques. Il y a toute une industrie qui s'est créée. Aujourd'hui, la mine est fermée, mais cette structure industrielle est restée. Et c'est ça qui fait vivre aujourd'hui la ville de Johannesburg. On peut étendre des exemples. La Californie, qui aujourd'hui constitue, le deux tiers du PIB des États-Unis. Mais encore une fois, la Californie, le fameux Far West, c'est encore une fois, c'est le développement minier qui est à la base de la prospérité de cet État. On peut citer des exemples, l'Australie, etc. Donc aujourd'hui, si nous avons un plan minier qui permet à nos ressources minières d'être exploitées et de développer nos infrastructures et notamment nos ressources énergétiques, eh bien d'ici quelques années, vous allez voir, le pays va se mettre debout.
Voilà,
dépend de ce qu'on appelle le modèle économique.
Voilà, c'est bien retenu, monsieur Leonid, hein. Vous avez insisté sur le plan minier. Vous avez parlé également des exemples d'autres pays. Dommage. On est vraiment à la fin de ce numéro. On espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, Leonid Amoupépélé. Je rappelle que vous êtes ingénieur civil, métallurgiste, ingénieur de mine, directeur général du cabinet dénommé Bicotim SRL et puis ancien DG, licence d'expertise et d'évaluation de la certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et créateur de ces scams devenus aujourd'hui CMAP. C'est un grand plaisir de vous avoir. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Merci à Julie Fusa. Je pense que c'est par là qu'on arrête pour le numéro d'aujourd'hui. Voilà.
On s'arrête là aujourd'hui.
Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Patrick Kassongwa qui est à la mise en onde. Et puis à Paul Badjanama de l'équipe multimédia au micro. Vous l'avez compris, c'était Marcel Ngombala et Julie Feza Bongo. Donc, plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des Paroles des Auditeurs. C'est la bonne suite du programme. C'est la fréquence de la pouvoir à toutes et à tous.